Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Géraldine Lemeur de The Refiners. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Oui, bien sûr. Géraldine Lemeur, donc The Refiners que j'ai cofondé avec Carlos Dez et Pierre Gobil il y a 2 ans. Mais je suis entrepreneur depuis 1995 dans l'Internet.
Déjà,
oui, ça fait grand-mère presque, hein. Maman de 3 garçons. Et puis j'ai bougé aux États-Unis il y a 11 ans et j'ai co-créé un certain nombre d'entreprises, toujours dans le digital, sur ces 20 dernières années.
Tu dis depuis 1995. C'est quoi le digital en France en 1995?
Ah bah c'est les balbutiements, c'est le début, c'est les pelles et les pioches. Donc on a commencé avec pourquoi je dis les pelles et les pioches, parce que c'était au tout début, donc la création de sites internet, une agence web qui s'appelait au tout départ Looping Communication et puis qui est très vite devenue B2L. Rejoint le groupe Omnicom BBDO. Et puis après, en 97, j'ai créé une boîte qui s'appelait RapidSight et qui a un petit peu révolutionné l'hébergement de sites internet. Alors maintenant, on dit le cloud, mais à l'époque, il n'y avait que des gros serveurs. Et il s'agissait de fractionner tout ça et de donner des offres à 200 francs par mois. Ouh là là, ça fait un peu bizarre. Pour les agences, justement.
Tu vas beaucoup trop vite, là. Looping Communication, donc c'est ta première boîte ?
Oui, c'est ma première boîte. B2L, on va dire, parce que Looping, ça a été vraiment anecdotique.
Et tu parles très vite de CLM, mais alors comment tu l'as créé cette boîte? C'est quoi l'histoire? T'as bossé avant? Tu sors d'études? Il se passe quoi avant?
Alors j'étais déjà mariée à l'époque avec Loïc. Et moi je suis sortie en fait de Schema.
D'accord.
En 95, j'ai été diplômée, déjà maman, puisque j'ai mon petit garçon en simultané, Arthur, mon aîné.
Sortie de tes études?
Pas à la sortie de mes études, en fait, en troisième année.
D'accord.
En troisième année, mariée déjà, et puis avec une vraie volonté de commencer à bosser, d'entreprendre ma vie. Et je me suis dit, mariée, on va tout de suite me poser la question de savoir si j'allais avoir un enfant. Donc comme ça, la carte était complète, mariée, mais avec déjà un petit garçon. Et j'ai commencé, en fait, à travailler chez McCann Erickson, qui montait juste son équipe interactive. Et c'était un petit peu compliqué pour moi, justement, en étant maman, et j'ai compris que ça allait pas le faire. Et au même moment...
Mais on doit te regarder bizarrement quand même quand tu débarques avec...
Ouais,
en disant j'ai 23 ans, un enfant,
ouais, 23
marié.
Ans, un enfant, mais bon, voilà. Mais on m'a surtout demandé souvent si je prenais mon après-midi parce que j'allais le chercher à la crèche. Ça m'a très vite énervée. Et il se trouve que Loïc avait fait... donc mon ex-mari avait fait une année de césure.
Ouais.
Et donc il était encore à HEC à ce moment-là. Et il y avait cette envie de on se rendait compte qu'il y avait des choses à faire. On commençait à avoir des projets avec Peugeot notamment. Et donc on s'est dit on se lance quoi. On crée. Il y a un besoin dans le digital. Enfin à l'époque on disait pas il y a un besoin dans le digital. Il y avait l'internet qui arrivait, il y avait les sites internet qui commençaient à arriver. Et donc les grands groupes tout de suite avaient besoin de ça. Donc voilà, c'est parti de ce constat. Et on s'est dit, de toute façon, personne ne sait faire, donc on va essayer.
Mais vous ne saviez pas faire non plus?
Ah ben non, on ne savait pas faire non plus. C'est pour ça que je dis, il y a un moment donné, il faut aller creuser dans la mine et puis découvrir. Je me souviens d'une anecdote qui était notre premier designer. Et à l'époque, détourer les images, c'était compliqué. Puis les images étaient très lourdes. Enfin voilà, on a fait comme les autres, on a appris sur le tas.
Et du coup, vous aviez des développeurs? Comment, tu veux créer un site pour Peugeot en 95 tu le fais pas comme ça, il faut une pelle, une pioche.
Voilà. Ouais. Et donc on a recruté effectivement notre premier développeur. Et puis il y avait pas les VC non plus, donc il s'agissait effectivement d'avoir des clients. Les premiers clients qui nous ont fait confiance, c'était Elida Fabergé à l'époque et Peugeot.
D'accord.
Et effectivement avec ses clients, et on a réussi à on a recruté notre premier développeur et puis de fil en aiguille, c'est devenu quand même une grosse agence.
Et tu te souviens de ton premier site, du coup ?
Ah bah mon premier site, oui, je me souviens très bien. C'était pour Elida Fabergé sur une partie dentifrice, une de leurs marques. Et oui, bien sûr.
Et c'est marrant parce que te dire sortir un site sur le dentifrice en 95, ça sert à rien, c'est que de la com en fait. C'est
non, mais en fait c'était l'idée, c'était de alors maintenant ça paraît complètement non, c'était des petits jeux pour les enfants.
D'accord.
Avec des cases à cliquer qui se coloriaient. Voilà, donc ouais, il y avait c'était assez innovant.
Et donc cette boîte a grossi.
Ouais, cette boîte a grossi. Et donc est devenue en fait est devenue partie d'Omnicom BBDO assez rapidement.
Qui vous a racheté, qui a investi, comment ça s'est passé?
Qui a investi, racheté, voilà. Et c'est une boîte qui a évolué jusqu'à une agence qui a évolué jusqu'à une centaine de personnes.
D'accord. Et que
sur la période jusqu'à 99 à peu près. Donc ça c'était 95-99. Oui.
D'accord. C'est vraiment la...
Mais en simultané, donc j'ai commencé avec B2L et en 97, en fait, effectivement, quand on se rend compte qu'il y a le besoin des sites web, il y a le besoin d'hébergement. Et donc c'est en 97, Loïc a continué avec B2L et moi je suis partie sur la partie hébergement avec RapidSight.
D'accord. Que tu crées toute seule?
Qu'on crée ensemble, dans le sens D'accord. où on était ensemble et on faisait, mais par contre que je prends, enfin voilà, qu'il y a ces bureaux séparés, c'est mes équipes, je suis CEO, voilà, ouais.
Et excuse-moi, ça me fascine parce que donc vous êtes hyper jeune, vous êtes parent, vous avez eu votre deuxième enfant à quel âge du coup?
Juste en même temps, en 97. Gauthier est né en juin 97.
Des baboules. Et du coup, ça fait quoi de gérer des boîtes, créer des boîtes, avoir des enfants? Comment tu gères tout ça?
Et je me pose pas la question, en fait, c'est juste des choix. Et en même temps, je me rends compte que c'est la meilleure manière de pouvoir avancer sur les deux fronts. J'avais très envie d'être maman, d'avoir une famille. Et en même temps, je me rendais bien compte que mes enfants ne m'appartiennent pas, et qu'il faut que je construise aussi ma vie professionnelle. C'était aussi tout aussi important pour moi. Donc j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, malgré les challenges, la possibilité de le faire sans que personne me dicte mes choix ou m'impose des choix. Donc c'est compliqué, c'est sans financement, c'est bootstrap.
C'est vous qui vous payez, hein.
Ah bah oui, enfin se payer c'est un bien grand mot. On paye surtout nos salariés. Donc derrière effectivement, ça passe par des choses où vous êtes entrepreneur, vous avez deux boîtes et vous demandez à vos parents s'ils veulent être caution de votre logement quand vous décidez de prendre un petit deux pièces et de louer parce qu'on vous dit oulala, mais vous êtes un profil super dangereux. Donc ça c'est.
Vous étiez à Paris.
On était à Paris. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais bon, je pense que c'est des vrais choix constructifs.
Et donc du coup tu dors pas, tu prends un congé mat qui est de 3 jours, enfin comment?
Non, mais ça c'est rigolo sur les congés mat parce que j'ai une anecdote comme ça où donc quand j'étais enceinte de Gauthier du second, j'ai un client chez donc on bossait tous les deux chez B2L et à l'époque je travaillais avec mon nom de jeune fille parce que bon la boîte était petite et puis on était jeunes donc ça faisait un peu bizarre monsieur madame. Donc les gens ne savaient pas qu'on était mariés. Et j'ai un client qui va voir Loïc et puis qui lui dit ta chef de projet, là, elle a l'air vraiment bien enceinte. Elle va pas nous planter, quand même. Il dit non, ça va, j'ai confiance. Donc non, bon, les congés mat, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, mes aînés sont nés sur des périodes estivales, comme Arthur en août, Gauthier en juin. Donc du coup, c'était plus facile pour faire, pour faire le joint. Mais bon, pas particulièrement, non. Enfin, je me posais pas la question en ces termes. C'est-à-dire que ma vie était organisée autour de mes enfants et de mes sociétés. Donc voilà.
C'est marrant parce qu'il faut une certaine maturité. Très jeune, vous êtes propulsé dans un truc, vous avez dû prendre des sacrées claques quand même à ce moment-là.
Oui, des claques, et puis mais bon, ça c'est sûr, parce que c'est difficile. Enfin, moi, mon plus gros stress, c'était de me dire que j'avais des gens que je devais payer à la fin du mois. C'était pas tant de savoir comment moi j'allais gérer, parce que je me disais, bon, on va s'organiser. C'était plutôt de se dire, bon, il y a des salaires à assurer à la fin du mois.
Des enfants à nourrir aussi.
Oui, des enfants à nourrir, bien sûr. Mais j'avais plus de stress sur eux.
Ouais, je
sur,
comprends.
Voilà, sur le. Enfin, la charge d'âme pour moi n'était pas tant sur nous que plus que sur les gens qu'on avait onboardés dans notre aventure.
Et elle vient d'où cette envie d'entreprendre? C'est parce que tu t'es rendu compte que tu avais un enfant et que ton premier job était trop compliqué ou la perception des autres était trop compliquée ou c'est une envie que tu avais en toi depuis toujours? C'est tes parents qui t'ont transmis ça?
Non, pas particulièrement. Enfin, j'ai des parents qui étaient profession libérale, donc du coup, effectivement, qui étaient quand même dans un. C'est une forme d'entrepreneuriat. Mm-hmm. C'est une forme. Pour moi, c'était plus un côté de choix et de liberté de choix plutôt.
Et depuis, t'as toujours été entrepreneur.
Toujours.
D'accord. D'accord. Donc la lignée RapidSide, donc tu dis, c'était du cloud, de l'hébergement.
C'est de l'hébergement, oui.
D'accord. Donc tu t'es dit les pelles et les pioches, il faut que je plutôt distribuer des pelles et des pioches plutôt que de creuser quoi un moment.
Mais en fait, on s'est très vite posé la question de savoir où on hébergeait nos propres sites avec B2L. Donc on s'est rendu compte que l'offre française, elle était quand même très très cloisonnée et qu'il fallait investir des gros montants mensuels sur des grosses machines à l'époque chez Olean, des choses comme ça. Et on s'est très vite tourné vers les États-Unis, regarder comment ça se passait là-bas. Et à l'époque, il y avait donc une société qui s'appelait Highway Technologies, qui est maintenant devenue Verio, et qui commençait à faire du fractionné, on va dire, du cloud. Et donc, c'est des gens avec qui on a monté RapidSite.
D'accord. Vous êtes allé voir les Américains, vous leur avez dit...
Oui.
D'accord.
En termes d'infrastructure, c'était hébergé aux États-Unis.
Ce qui posait potentiellement des problèmes de rapidité à l'époque ou
pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. C'était complètement transparent.
D'accord.
Parce que les sites étaient pas lourds, il y avait rien. Enfin, c'est. Je veux dire, faut voir que les sites internet à l'époque c'était des pages HTML. Barre. Hein,
ouais.
Et encore les images. Enfin, il y avait rien. Il y avait pas de vidéo. Il y avait donc c'était c'est aucun problème.
Et là, pareil. Comment tu fais ça? Tu pour aller voir tes Américains là? Tu les appelles? Tu leur envoies un email? Tu y vas?
Oui, en fait c'est un coup de fil, c'est un mail, c'est une connexion, c'est coucou, on est en France et voilà ce qu'on fait et on tombe sur des gens très ouverts qui réfléchissaient à l'Europe et qui commençaient à ouvrir en Allemagne notamment.
Mm-hmm.
Et de fil en aiguille, voilà, on fait très très vite on passe très très vite un accord avec eux et on monte RapidSite.
D'accord. Et donc RapidSite devient quoi? C'est quoi l'aventure de RapidSite?
Ben, RapidSite évolue jusqu'à fin 99 où mon chemin croise celui du patron de domicile qui était l'hébergement que venait de lancer France Télécom à l'époque.
D'accord.
Et puis bon, on avait un très gros marché puisque je pense qu'on avait à peu près toutes les agences web avec RapidSite sur la France. Et donc on commence une discussion tous les deux sur une anecdote en fait au départ parce que mon chemin a croisé domicile parce que on avait sorti une pub à l'époque il y avait on faisait encore des pubs papier et ils avaient une communication qui était exactement la même que la nôtre mais après donc il y avait deux choses l'une soit on se parlait soit je leur envoyais une lettre en disant mais comment vous êtes gros c'est pas possible que vous nous copiez comme ça. Et pour le coup, j'ai décroché mon téléphone. Je lui dis, ça serait bien qu'on se parle parce que je vois qu'on fait les mêmes pubs, donc on a peut-être des choses, enfin, en commun, en mode sympathique, enfin, pas du tout. Et on a fini par beaucoup se parler puisqu'à l'époque c'était Nicolas Dufourc, le patron de Wanadoo, et puis il a racheté RapidSite.
D'accord. Donc première session totale.
En simultané avec B2L, oui, oui, oui.
D'accord.
Fin 99, oui.
Donc vous avez quoi, pas 30 ans, 26, 27, 28
27.
Ans. 27 ans, vous vendez deux boîtes.
Oui.
Et vous avez deux enfants.
Oui.
Et vous restez dans les boîtes ou vous partez
Alors B2L, oui, il y a eu un accompagnement. France Télécom, non, ça a été extrêmement rapide. Et on a... Enfin, voilà, j'ai fait de la passation de pouvoir.
Et du coup, tu te dis quoi quand tu... C'était bien vendu, vous étiez content, j'imagine.
Ah oui, c'est un tournant. C'était un tournant incroyable. Enfin, c'est quelque chose qui a impacté énormément la suite de notre vie d'entrepreneur, oui.
C'est assez marrant de vivre ça en couple quand même, parce que...
Ouais, ouais, c'est sympa.
Et du coup, tu te dis quoi là? Tu te dis, je vais arrêter un peu, je vais faire une pause
Non.
Non.
Enfin, je me suis même pas posé la question en ces termes. On était pris dans cet engouement entrepreneurial et on a monté ce qu'on appellerait aujourd'hui un startup studio.
D'accord.
Donc l'idée, c'était vraiment de réinvestir et d'essayer de faire des choses intelligemment. Sauf que je crois qu'il y a un facteur très fort dans l'entrepreneuriat qui est, si c'est trop tôt, c'est trop tôt. Mmh. Et ça marche pas. Donc on a monté ce startup studio en investissant beaucoup, beaucoup de notre argent. On a eu la chance d'en avoir, mais on avait envie de le réinvestir. Et en créant...
Ça s'appelait comment?
Ça s'appelait Business Space.
D'accord.
Et donc on a créé un certain nombre de d'entreprises, on a levé pas mal d'argent pour ces boîtes, c'était la grande époque j'ai les noms qui m'échappent maintenant. Europat Web et autres messieurs.
Bernard Arnault, oui,
voilà. Et donc on a créé un certain nombre de boîtes avec l'idée de d'intégrer toute une structure. Donc vraiment comme on voit les modèles de studio aujourd'hui.
Oui.
Donc on avait en interne le juridique, le RH, le financier, le marketing. Donc beaucoup de, enfin un certain nombre de personnes. Et puis on commençait à monter les projets.
Ce qu'on fait un peu chez Cosa Vostra. En fait.
Voilà, on commençait à monter les projets et puis après on trouvait des équipes pour le faire. Mais je crois qu'on a eu un certain nombre de choses qui étaient trop tôt. Et puis le modèle était pas, voilà, c'était pas encore dans les mœurs.
Et puis en plus, il fallait trouver. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des vagues d'entrepreneurs, des wagons entiers, même de personnes qui veulent entreprendre. Qu'on se repose à l'époque, qu'on se projette, c'était quand même moins le trip. Enfin, j'ai un souvenir d'études à un moment où, au début des années 2000, il me semble. Je crois qu'il y avait une majorité de jeunes diplômés qui voulaient être fonctionnaires.
C'est vrai, mais il y avait quand même cet engouement des années. Avant que tout ça éclate, il y avait quand même un engouement, une volonté de faire. C'était.
Et donc, ça a été une étape. Tout est succès, échec, mais un échec relatif. Ou ça a été. Qu'est-ce qui s'est passé avec Business Space?
On a beaucoup appris.
Vous avez beaucoup cramé.
On n'a pas de société qui en a beaucoup cramé, oui, de notre propre argent.
Ouais.
On a beaucoup appris. Et puis non, moi je trouve que c'était très constructif. Ça m'a, voilà, il y a des choses qu'on s'est rendu compte qu'il était que, enfin moi j'ai vraiment compris que quand il était trop tôt, que le marché n'était pas prêt, on pouvait avoir une très très bonne idée. Et on le voit encore maintenant. Hein, il y a des boîtes aujourd'hui là en 2018 qui cartonnent alors que les mêmes idées il y a 5-6 ans étaient des flops totaux. Hein, mais ça nous a permis aussi de faire émerger la boîte suivante qui était Ublog, donc le lancement des blogs qui était la suite de l'aventure.
Et du coup, ça a duré combien de temps ce startup studio?
Je sais pas, deux ans, oui, quelque chose comme ça, deux, trois ans.
Ce qu'il faut savoir couper aussi. Je veux dire, ce qui m'intéresse dans ces aventures, c'est se dire, ok, là, je pense qu'on est.
Oui, bien sûr. Bah, à un moment donné, faut se rendre compte que ça marche pas. Et pourtant, c'est des boîtes avec lesquelles sur lesquelles on avait réussi à lever. Comme je disais, par exemple, avec Europat Web, des choses comme ça. Donc là aussi, beaucoup appris parce que c'était le début de l'émergence des VC.
Et du coup, c'est assez marrant, vous avez vraiment vécu un truc en accéléré dans tout ça, c'est-à-dire l'espace de 7-8 ans après la sortie, vous avez deux créations d'entreprises, deux sessions, une création de start-up studio, un échec relatif, et là vous vous dites, on recommence.
Ben là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et une évolution avec une vraie volonté de pouvoir faire des sites web facilement, parce que jusqu'à présent, c'était quand même, enfin, jusqu'à ce moment-là, c'était très à la mano. Et donc, émerge, en fait, d'une boîte qu'on avait commencé à créer qui s'appelait Tekora, et dont l'idée, c'était de faire des sites de manière très simple, très facile, très automatisée. Là encore, avec un contact avec les US, émerge Ublog, et puis qui va très vite devenir Sixpart.
D'accord. Et vous vous dites pas à un moment, on va se poser ou...
Non.
Non, non, c'est marrant, hein, vous avez ce feu sacré là. Ouais.
Non, c'est pas du feu sacré, mais je crois que c'est aussi vrai pour Loïc que pour moi. On avait envie de continuer, de faire, de...
C'était pas une option.
D'agir. On s'est même pas posé la question. Non, c'était pas une option.
Et vous investissiez déjà à l'époque après,
oui. Ouais. Oui, on investissait. On a créé des liens extrêmement forts avec les États-Unis très tôt. On a eu la chance de comme ça de nouer des liens avec des gens qui aujourd'hui sont des icônes. Mm-hmm. Mais oui, on a investi très tôt dans LinkedIn, on a investi donc parce que c'est des gens qu'on connaissait et avec qui on a, je pense qu'il y avait un alignement d'âge, de planète, de vision, donc on allait beaucoup aux États-Unis déjà à l'époque.
C'est une belle époque, ça, en effet. Et puis, alors, accompagner des gens, donc tu parles de Reid Hoffman ou de.
Oui,
comme ça,
de Reid Hoffman, absolument.
D'accord. Ça, c'est fantastique, c'est un petit peu.
C'est magique.
Ouais.
Ouais, ouais, c'est magique. C'est quelqu'un de magique. Ouais.
Et tu le sentais déjà à l'époque? Tu le rencontrais, tu disais c'est quelqu'un de magique ou il est devenu magique?
Ah non, enfin, c'était déjà PayPal à l'époque, ouais, hein. Donc, ouais, ouais. Donc oui, c'est des gens qui avaient déjà une envergure, une vision, enfin, qui vous transportaient, oui, bien sûr.
Et donc, du coup, U-Blog, Six Apart, mm-hmm. C'est là où vous gagnez pas mal en notoriété, je crois, quand même, non?
Écoute, je sais pas. Bon, c'est vrai que Loïc a beaucoup évangélisé sur les blogs. Donc, probablement, il y a eu plus d'exposition à ce moment-là où il a commencé lui-même à publier, à produire du contenu, du podcast aussi. À l'époque, il faisait pas mal de podcasts.
Audio et vidéo. Hein.
Ouais, d'abord, c'était audio. Ouais, hein, parce que là, on ne parle pas encore de la vidéo. Vidéo, c'était vraiment, pour l'instant, à ce moment-là, le tout départ. Et puis, c'est une belle rencontre. Pourquoi Six Apart ? Parce que c'est une belle rencontre avec Ben et Mina Trott. Qui était aussi en couple, qui était un petit peu plus jeune que nous, et donc on a eu aussi cet alignement de planètes, et donc très vite on est devenu en fait la partie européenne IMEA, comme on aimait bien dire à l'époque. Maintenant je crois que c'est un peu désuet, mais
IMEA, c'est ouais. Europe, Middle East and Africa.
Ouais, c'était drôle cette espèce de bloc, voilà. Et donc on s'est rapproché de Six Apart avec U-Block.
D'accord. Et du coup, vous aviez une sorte de ménage à quatre, en tout cas, en termes de...
Oh oui, bah eux, ils étaient aux États-Unis. Mais bon, ouais. Voilà, c'était juste ce côté, effectivement, il y avait... Enfin, c'était deux couples, mais eux, ils étaient aux États-Unis et ils développaient leur boîte. Nous, on était en Europe et on développait la nôtre, qui s'est avérée être la même après, mais oui.
Et donc, le modèle économique, donc, d'abord, vous partez donc, sur un modèle traditionnel d'agence, puis un modèle d'hébergeur, puis un modèle de start-up studio. Et là, vous arrivez sur un modèle de publisher, en fait, c'est ça ?
Oh, start-up. Alors là, enfin, pas un modèle de publisher, un modèle de start-up, parce que Six Apart, c'était un outil. C'était vendre du... On ne vendait pas de contenu, hein. C'était un outil pour les gens, pour pouvoir très facilement créer des blogs.
Ils payaient pour ça, alors ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Ok, c'était pas, vous mettiez pas de pub sur les blogs.
Non, c'était un service, et donc il y avait aussi une grosse partie qui s'appelait Movable Type, il y a eu un move à un moment donné, un choix qui était de sortir de l'open source pour en faire quelque chose de payant. D'accord. Et ça a ouvert la voie à WordPress qu'on connaît maintenant, qui eux étaient en open source. Et donc effectivement, mais à l'époque, c'était surtout Movable Type qui était l'outil pour développer des sites web facilement et des blogs en l'occurrence.
WordPress, c'est une très belle boîte. Matt Mullenweg, s'il parlait français, j'adorerais.
Matt a fait une boîte absolument sublime. Absolument sublime. Et je crois, je lisais une statistique il y a 2-3 jours, et je crois que c'était 30% du web mondial est sur Movable. J'aurais bien aimé. Et sur WordPress.
Oui, je crois qu'on est presque à 35. Ouais. C'est de la folie. Ouais. Et il reste très jeune. Hein. Je crois qu'il a moins de 35 ans. Donc. D'accord. Et donc, du coup, cette aventure, moi, en effet, c'est à ce moment-là, je crois que je vous ai vu un peu sortir. Du buisson en tout cas, et je me souviens très bien des premiers blogs et de qui était enfin Loïc qui était un peu le premier blogueur de France.
Ah oui, carrément, quoi. Oui, ouais. C'est un évangéliste, franchement il a beaucoup œuvré dans ce domaine là. Ouais.
Et toi, ton rôle derrière était vous comment tu répartis les rôles là, dans le business là-dedans?
Ben, on a toujours une répartition des rôles qui était assez simple, et je crois qu'elle est assez visible, enfin en tout cas elle était assez visible à l'époque, c'est que évidemment Loïc était le facial, avait d'énormes qualités en termes de communication, et pas que, mais moi j'étais plus sur la partie business au quotidien.
D'accord. Donc le producteur versus un acteur.
Un bon équilibre, un bon équilibre. Oui.
Et en parallèle, vous avez eu un troisième enfant ?
En 2001, il était. Oui. Greg est né en 2001, donc c'était plutôt au moment, c'était au moment de la partie studio.
À 30 ans, tu as eu 3 enfants, 3 entreprises.
J'ai eu Greg à 29 ans. Ah oui, maintenant j'ai un grand de 22, un deuxième de 20 et un de 17, ce qui vient d'avoir 17 ans.
D'accord.
Ouais, Greg.
C'est vrai que c'est...
oui, c'est sympa hein, à 45 ans d'avoir des grands comme ça, c'est cool.
Non, mais c'est
vrai, vraiment très très cool.
Mais c'est vrai que de temps en temps, on se dit, quand on a 2 enfants, quelques boîtes, on dit putain, je suis un guerrier, mais alors vous étiez des sacrés guerriers.
Je suis une guerrière. Parfois, maintenant, avec un peu de recul, je sais pas comment j'ai fait, mais bon, voilà, je l'ai fait.
Et c'est vrai que c'était pas. Si visible, je veux dire, enfin, on voit, vous êtes pas, vous masquez pas complètement votre vie privée, donc on voit que vous avez des enfants qui sont, que tu as des enfants qui sont assez âgés, donc on se doute qu'il y a eu une histoire un peu comme ça, mais j'en ai pas le souvenir à l'époque de.
Non, mais j'étais plutôt, enfin, d'abord. Repassons les choses dans leur contexte. Ce que Facebook est aujourd'hui n'était pas ce que
c'était
hier. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Donc les réseaux sociaux n'étaient pas. Mais avec Loïc, on a toujours préservé effectivement notre côté, familial, les enfants, parce que bon, je pense que ça apporte rien. Alors maintenant, c'est amusant. Ils sont grands, ils ont mes aînés, ils commencent à avoir leur vie et voilà. Donc c'est un petit peu anecdotique et puis c'est sympa. Et puis je suis fière aussi. Donc il y a ce côté, quand ils font des choses. J'ai un peu mon hashtag proud mam, j'ai jamais vu l'intérêt ni le besoin de d'exposer ma vie privée. Je pense que y a une partie business qui est suffisamment publique, sans pour autant donc il y a des sphères qui ont pas besoin d'être publiques. Ça ne regarde que
nous. Non, après sans forcément les présenter, mais il y a quasiment un intérêt relation presse en tout cas de justement ce côté.
Oui, mais bon, j'en ressentais pas le besoin ni et puis je voyais pas l'intérêt de jouer le côté presse, super maman, femme, enfin bon, c'est pas mon truc. Voilà, j'étais là pour côté business probablement, mais pas mon côté perso. Absolument, je préfère, voilà, c'est un peu, il y a un petit côté jardin secret, et bon, je crois qu'il y a toujours ça encore dans ma personnalité. Il y a effectivement ce que je mets sur les réseaux sociaux, puis il y a une autre part de ma vie que je ne mets pas.
Et comment, c'est quoi tes journées juste à cette époque-là? Comment quand tes gosses sont à la maternelle, enfin t'en as qui sont au primaire, tu fais un 9h-18h et puis.
J'ai jamais eu de nounou à temps plein parce que de toute façon quand j'ai eu mes enfants, j'aurais pas eu les moyens de l'avoir.
D'accord.
Donc mes journées étaient organisées aussi autour de mes enfants, dans le sens où. J'avais juste une petite jeune fille qui allait me les chercher à l'école, mais je rentrais assez tôt à la maison. Je me suis toujours occupée de mes enfants en fin de journée. Et puis après, je recommençais à bosser. Très classique, comme beaucoup de mamans.
Beaucoup de papas aussi, finalement.
Hein. C'est chouette. Je peux pas dire de beaucoup de papas, parce que du coup, pour le coup, en tout cas, de mon point de vue, je pense qu'on était encore sur... Il y avait un côté très matriarcal dans la manière dont on a fonctionné. Mais bon, j'en ai pas souffert et c'était un deal qui m'allait très bien.
Mais je pense qu'il y a eu une évolution aussi dans les 20 dernières années où finalement, faut voir qu'avant 95 ou avant 2000, travailler de chez soi le soir, c'était possible, mais...
Compliqué.
Mm-hmm. Je veux dire, maintenant, on travaille pour beaucoup de boulots comme les nôtres, on travaille sur notre ordi, donc on peut travailler un peu de partout.
Maintenant, je crois que c'est bien et c'est pas bien, mais oui, c'est important. Et puis c'est vrai, hein, je vois dans mon entourage qu'il y a de plus en plus de papas qui sont beaucoup plus impliqués. Et c'est la question n'est pas de dire c'est fantastique, c'est normal. Enfin, j'estime que c'est normal.
Mais c'est
une évolution qui, voilà, ça prend du temps.
Mais c'est même, je pense, alors fantastique et plus équilibré, mais c'est même fantastique pour eux. Je veux dire,
bien
à un
sûr.
Moment, moi,
ah,
je
pas
sais
de doute là-dessus.
Dans mes journées, il m'arrive très souvent de rentrer à 19h, de faire un 19h-21h avec mes enfants et de retravailler 21h-23h. Ce qui peut être vu comme une tannée quelque part, mais moi, je vois ça comme une vraie opportunité. C'est-à-dire que j'ai un père qui rentrait, moi, plutôt à 21h que je ne voyais pas le
bien
soir,
sûr.
En fait. Donc,
non, je pense que c'est très important et on se rend pas compte à quel point ça passe vite entre 0 et 20 quand ils s'en vont. Et voilà. Et moi, mon intime conviction, c'est qu'on construit des choses dans la petite enfance qui sont difficiles à remettre en place par la suite. Donc voilà, tous les moments sont importants. Oui.
Et le fait d'être une femme dans les années, on va dire 2000, 95, 2010, 2000, enfin dans toutes tes années très fastes à ce moment-là, femme, mère, épouse, c'est tu sentais des barrières, tu avais des choses ou c'était
aucune. Non, j'ai jamais senti de barrière. Je me suis jamais posé vraiment la question. Est-ce que c'est parce que on était en binôme homme-femme avec Loïc? Je ne sais pas, mais je me suis jamais posé la question et j'ai jamais eu de ressenti de tu es une femme donc ou j'ai eu aucun, voilà. C'est vraiment pas des interrogations que j'ai eu. Je l'ai ressenti au tout début quand j'ai commencé à bosser à 23 ans chez McCann où là il y avait ce côté le côté oui je passais pas mon temps à la machine à café, je délivrais ce que j'avais à délivrer et effectivement je partais chercher mon gamin à la crèche parce que là à l'époque j'avais même pas les moyens de me payer la babysitter. Mais et où là tout d'un coup je me suis dit ça va pas rentrer dans le scope. Mais alors après pas du tout. Après je délivrais mon propre chemin et j'ai jamais trouvé autour de moi des gens qui mettaient des barrières absolument pas.
Comme quoi il faut capable d'avancer. Et du coup vous avez toujours monté vos premières boîtes, en tout cas ensemble.
Oui,
les aventures étaient toutes communes.
Toutes. On va dire jusqu'à notre divorce. Ouais. Mais oui, toutes. Donc en fait, suite à Six Apart, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à développer le web, qui à l'époque s'appelait les blogs. Et c'était en simultané, en fait. C'était de se dire, finalement, on a maintenant des outils où les gens peuvent s'exprimer. Donc c'est bien. Mais en même temps, on est quand même obligé d'aller systématiquement aux États-Unis pour voir les dernières innovations, comprendre ce qui se passe. Donc nous, on y allait déjà beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Et on s'est pas levé là pour le coup un matin en disant tiens, on va faire un business de conférence, mais plutôt en disant si on faisait un petit événement en faisant venir des Américains qui eux à l'époque étaient déjà beaucoup blogueurs, donc c'était donc, comme je le disais, Ben et Mina Trott, mais il y avait Joe Ito aussi qui lui est maintenant patron du MIT Media Lab, il y avait Reed, il y avait toute cette première en fait génération aux US qu'on a fait venir. Et donc l'idée c'était vraiment d'inspirer les entrepreneurs ici, de se dire mince, nous on est entrepreneurs, on a déjà depuis très longtemps la tête tournée vers les US, mais en même temps si on n'y va pas, on n'a pas l'information. Donc c'est comme ça qu'est né le web.
Le web qui était donc une conférence gigantesque.
Gigantesque, c'était 4000 personnes à la fin. Donc, le gigantisme oui, mais dans... était tout relatif.
Oui, mais c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. Enfin, je veux dire, après,
oui, c'est beaucoup.
Moi j'ai souvenir de la première, ou je crois que la veille du premier jour, on était allé boire d'un coup dans un bar où c'était probablement la première. Je sais même pas si on s'est beaucoup revu, mais aux fois où je croisais Loïc, et c'était quand même très casual, quoi, en fait. Et après, c'est devenu quand même un énorme truc.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, pour être très sincère, ça a commencé avec des tout petits événements qui s'appelaient les coulisses des blogs,
ouais.
où j'avais la chance en fait que Nokia nous sponsorise les petits fours. Merci Xavier Desor qui à l'époque qui était chez Nokia et qui nous a suivis dès le départ. Et donc ça, c'était confidentiel. C'était le soir. On faisait ça dans des salles d'hôtel. On avait quand même un certain nombre de personnes qui venaient, 100, 120. Donc on est passé à
la... Mais il a été assez visionnaire, du coup tu dis merci Xavier Desor, mais finalement
ouais,
il fallait...
Mais c'était sympa parce que Nokia était super visionnaire à l'époque. Mmh. C'est l'époque où ils commençaient à donner aux gens ces téléphones où on pouvait filmer, etc. Ouais. Donc il y avait quand même un shift et c'est vrai que ça allait bien avec la partie blog. Et donc voilà, de fil en aiguille, on s'est dit bon, ça prend. Donc on s'est débrouillé. En fait, je me suis débrouillée pour avoir une salle au Sénat, pour pouvoir avoir 250 personnes. Et donc le Sénat m'a prêté cette salle. C'était en 2004. Et je me souviens d'une anecdote qui était le gros stress de la personne avec qui j'étais en contact quand elle a réalisé que je n'installais pas de cabine de traduction. Et que je lui ai dit que tout allait être en anglais. Et là, elle m'a dit, mais attendez, c'est pas possible, au Sénat, c'est une institution, il doit y avoir du français. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, on est à 10 minutes de l'événement, donc il va pas y avoir. Et ça a été le premier, les blogs. Et puis gros succès de 100 personnes. Alors, c'était 2004. Donc, on s'est dit, pour le suivant, on va prendre une salle un petit peu plus grande. Et de fil en aiguille, en 2006, on est allé sur une salle qui était pour 600-800 personnes. Et là, je me suis dit, bon, là, ça devient une boîte, là. C'est plus un side project. Et c'est de là que le web est devenu, voilà, pendant 10 ans, mon activité principale sur, bah, voilà, en production et tout le tout team.
Et du coup, Six Apart, on va revenir sur le web, mais est devenu quoi? Vous êtes sorti, comment ça s'est passé?
Oui, nous on est, en fait ils ont récupéré la partie européenne.
D'accord.
Et puis Six Apart a évolué, est devenu Vox Media et est devenu C Media, enfin donc voilà, existe toujours aujourd'hui.
D'accord.
Enfin, c'est l'entité la boîte existe toujours et a évolué vers évidemment ça a complètement changé mais oui. Ça existe donc, toujours aux États-Unis.
Donc, vous créez quoi, votre cinquième, si j'ai perdu le fil, sixième boîte ensemble?
Ouais, je sais pas.
Et les répartitions là-dessus, vous avez une discussion à chaque fois, c'est toujours la même, c'est pas une discussion, c'est.
Non, il n'y a jamais de discussion, il y a un espèce de flux naturel et de.
D'accord.
Voilà. Et puis, non, il y a. Je pense que. On sait ce qu'on a à faire, Eloïc et moi, et on essaie de le faire au mieux.
D'accord. Et le web, c'est tous les deux? Il y a d'autres personnes
dedans? Non, le web, c'est tous les deux.
D'accord.
Le web, c'est tous les deux. Et puis voilà, on a amené et on amène toute la vallée en France. Et en 2007, on décide de bouger aux États-Unis.
D'accord.
Choix très personnel parce qu'on a envie d'être au cœur du réacteur.
Et du coup, la première au 104, c'était en 2007 ou 2006?
Oh non, le 104, c'était 2008-2009.
D'accord.
Oui.
Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tel que tu le décris, donc l'évolution de le web était à l'origine, il y avait quand même une envie de faire venir des gens en France pour donner une envie.
Ah mais, oui, c'est Platform for Success for Entrepreneurs. Oui.
Mais j'ai quand même l'impression que c'est devenu un... Alors c'est peut-être notre perception depuis la France, mais c'est devenu un vrai événement mondial quand même à un moment, non?
Ah oui, oui. On avait 80 nationalités, si je dis pas de bêtises, sur le web. Volontairement une taille assez pas réduite, mais maintenue à 4000 maximum, parce que pour nous, ce qui était important, c'est que les gens puissent communiquer entre eux et puis se créer des ponts.
D'accord.
Être inspiré. Et ce qui est fantastique, c'est les belles histoires. C'est les gens qui... moi, mes plus gros satisfaits sur le web, c'était les gens qui disaient « J'ai rencontré un entrepreneur, j'ai été inspiré, j'ai compris que je pouvais faire des choses. » Et finalement, qui me disaient aussi « C'est fantastique parce que j'ai pas toute l'Europe à parcourir. Ça me coûte le prix d'un billet d'avion. Je viens 3 jours à Paris et je peux faire plein de choses.
Ah, » C'est vrai que là-dessus... Ah, c'est ton téléphone. C'est pas grave, téléphone. On le laissera, tu vois, ça montrera.
Tu veux que
là.
Je le stoppe?
Hein, tu peux le stopper si tu veux, comme ça.
Je vais le mettre sur, je vais le mettre sur off. Deux minutes.
Donc voilà. Ce qui vous prouve que ce podcast est sans coupure. Voilà, comme j'ai mes écouteurs quand j'enregistre, j'entendais un bruit de fond et.
Ce podcast est vraiment live. Voilà. Et j'ai pas éteint mon téléphone, donc c'est pas bien.
C'est de ma faute, j'aurais dû te dire.
Ouais, j'ai oublié, en fait.
Ouais, parce qu'en effet, quand tu venais, le web, c'était clairement un événement mondial, en tout cas dans le public très européen, mais on voyait aussi des Américains, ou en tout cas des Américains.
Bah, les Américains étaient sur scène,
ouais,
beaucoup.
Ouais, ouais.
Et c'était une vraie volonté, c'est-à-dire c'était aussi pour que les Américains comprennent qu'il se passait vraiment des choses en Europe et en France, parce qu'à l'époque, autant maintenant, il y a un vrai regard. Autant à l'époque il y avait pas et je pense qu'ils ont aussi été souvent impressionnés. Donc ce qui m'a fait vraiment plaisir avec le web, c'est que je croise encore des gens aujourd'hui qui me disent voilà qu'ils ont été inspirés, qu'on a vraiment joué des choses pour l'écosystème et donc c'est mission accomplie.
Oui, et puis ça je pense que ça a joué au rayonnement aussi de la France et à donner envie à pas mal de gens d'entreprendre. Non, je pense que c'est un énorme succès au-delà du succès.
C'est vrai qu'en replaçant les choses dans leur contexte, quand on a commencé le web en 2004, il n'y avait rien.
Ou alors c'était trop cher, il faut le dire. Quand on était un petit start-upper, il y avait des prix.
Oh, on avait des prix start-up.
Oui, je sais. mais c'est vrai que ça nous semblait. C'était combien l'entrée?
Ça dépend. Pour les start-up, c'était 500-600 euros. Et puis après, ça pouvait aller jusqu'à 2000 euros. Ouais. Mais alors, ça, c'est un point important. Moi, j'ai toujours voulu faire de la qualité, délivrer de la qualité.
On en parlait juste avant.
Pour moi, c'était très important et j'ai toujours énormément respecté mes clients,
ouais.
les participants de le web. C'est vrai que beaucoup de gens venaient me voir en me disant « Ouais, écoute, tu pourrais me donner un ticket » parce que c'est cet état d'esprit de conférence. Mais on ne rentre pas dans un Apple Store en disant « Tu pourrais me donner un Mac ?» Et moi, derrière, faut voir que j'avais 150 personnes qui bossaient à la fin pour le web, qu'une production, c'est beaucoup d'humains et que l'humain, ça coûte cher. Et que sincèrement, même si beaucoup de gens pensaient que c'était une vache à lait, c'était pas une vache à lait. C'était un vrai business avec beaucoup de stress. Et donc voilà, j'allais signer effectivement des sponsors, mais les sponsors ne couvraient pas l'intégralité du budget. Donc, oui, il y avait c'était un business. On n'était pas dans un non-profit.
Et c'était vraiment un nouveau business. Je veux dire, c'est que là, ça a vraiment rien à voir avec ce que tu as fait jusque-là.
Ah, complètement rien à voir. Là, en plus, je faisais 10 métiers dans l'année.
C'est-à-dire ? Ah oui, parce que donc t'as une conférence par an ?
Alors à l'époque, j'ai une conférence par an. Après, on a fait Londres aussi, mais j'ai une conférence par an. Je travaille que avec des freelances.
Oui.
Ou alors des gens qui ont leur boîte. Je construis une équipe solide de 4-5 personnes, mais qui ne sont pas mes salariés et avec qui on avance. Pourquoi 10 métiers dans l'année? Parce que au début de l'année, on va signer ses sponsors.
Oui.
Donc on va voir les grands groupes, et ça prend du temps. Parce qu'après, on rentre plus dans la partie prod. Très riche.
Et puis il y a les speakers cool. aussi. Il y a un moment où les 2 mois après l'événement, tu repars tambour battant.
Non, c'est du postpartum. Alors c'est très bizarre parce que en fait, toute l'année, on focus sur 2-3 jours dans l'année.
Oui.
En plus, nous, c'était en décembre. Et puis on a gravi la montagne. Bon, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Mais enfin, on a gravi la montagne, donc on est en haut. Et puis tout d'un coup, le lendemain, il n'y a plus rien, il faut recommencer.
Il y a une année où il y avait de la neige, non? Ou un truc, il n'y a pas une année où...
Oh, on a tout eu. Oui, il y a une année où il y avait de la neige. Et cette fameuse année où les gens... l'histoire est vraie, où Travis, qui a monté Uber, est à Paris. Ils avaient déjà commencé à avoir l'idée avec Gareth Camp de Uber. Et puis là, il est à Paris. Puis c'est une espèce d'étincelle. Il dit, mais ouais, c'est ça, en fait. Je ne trouve pas de taxi, ce n'est pas possible. Et Uber est né juste après, mais voilà, Travis était venu parler à le web, et c'est vrai que ce qui était magique avec le web, c'est que on a eu tout le monde, et on a eu aussi beaucoup de lancements de boîtes. Jack est venu lancer Square, et à l'époque,
Jack Dorsey,
personne n'y croyait. Evan Williams, quand il est venu, donc Twitter, quand il est venu, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'était en 2007 ou 2008, les gens ne le connaissaient pas. Il parlait de Twitter, il n'était même pas arrêté dans les allées. Aujourd'hui, ça serait juste inconcevable. Donc oui, il y avait cette... Et puis à l'époque, il n'y avait pas de conférence non plus. Je pense qu'on a initié quelque chose sur les plateformes. Après, il y a eu Web Summit, mais qui est arrivé bien après. Paddy Cosgrave a fait un boulot merveilleux. Mais nous, on voulait toujours rester à taille humaine. C'est ce qui était... Pour nous, ce qui était important, c'était avant tout le network que les gens pouvaient se créer et la vraie connexion humaine entre entrepreneurs et puis après avec les corporates, etc.
Et c'est fou parce que du coup, tu te mets au cœur du réacteur dans tout ça. C'est-à-dire, tu vois les boîtes que tu invites, les sponsors, et tu connais les... Enfin, tu parles de Evan, de Jack et de Reed. C'est des icônes dans le digital. Tu les connais depuis leur tout début, en fait.
Oui, on s'est connus. En fait, il se trouve qu'il y a eu une synchronisation chronologique qui était sympathique, c'est qu'on s'est connus au début. Et puis, d'une certaine manière, je les recevais à Paris. Oui. Donc, on faisait beaucoup de choses en off. C'est vrai, avec le web, avec nos speakers. Et puis il y avait ce côté effectivement un petit peu plus intuitif personnel qui nous a permis de créer des relations voilà fortes avec un certain nombre de gens. Mais on était en fait tout le monde faisait la même chose. On commençait tous des choses et on avançait.
Et du coup vous partez aux États-Unis, l'idée c'est quoi? C'est alors déjà matériellement, faut transférer une boîte de la France aux États-Unis.
Oui, non, parce qu'on était entre deux boîtes, donc il y avait pas de. Enfin, et puis le web a toujours été une boîte française.
Et après, vous partez là-bas pour vous mettre encore plus au cœur du réacteur. C'est l'idée. C'est découvrir un nouveau monde. C'est
oui, c'est le cœur du réacteur. C'est à un moment donné, on s'est posé plusieurs fois la question. Et je dois avouer que quand les enfants étaient petits, j'avais une certaine appréhension de bouger aux États-Unis parce que mon organisation était extrêmement bien réglée ici, ça roulait. Voilà, quand j'avais mes boîtes, je louais mes bureaux pas loin de l'école. Enfin, c'est des détails, mais ouais. Et j'avais peur d'être un peu pris dans un système aux États-Unis où je savais très bien que l'accompagnement pour la petite enfance était certainement pas le même non plus que mes enfants ont été en crèche. Hein, donc voilà, était pas le même. L'école c'est à 5 ans, c'est pas à 3 ans, etc. Et j'avais peur de pas pouvoir continuer. Et donc du coup, à chaque fois, on s'est posé la question. Et puis, même en 97, je pense, enfin, ou 99 avant de créer le studio, on s'est posé la question. Et je pense que j'étais vraiment pas prête. Et en 2007, mon fils aîné avait fait sa 6e. Et on s'est dit vraiment, si c'est pas maintenant, ça, on fera pas. Parce que justement, Arthur rentrait dans l'adolescence, 12 ans. Et il y avait un peu un tipping point. Après, ça aurait été trop tard. Et cette envie d'aller au cœur du réacteur, d'aller à San Francisco, était extrêmement présente. Donc, on l'a fait. Voilà, on a sauté le pas.
Juste avant la crise des subprimes.
Oui. Ouais.
Que vous avez vécu dedans aussi.
Oui, oui. Ouais, alors là, pour le coup, moi, j'ai pris le web à bras-le-corps et Loïc a tout seul lancé Sismic.
D'accord.
Oui, c'était une période. Puis bon.
Donc là, pour la première fois, pardon, c'est important ce que tu dis. Pour la première fois, vous scindez un peu vos parcours professionnels.
On les scinde pas dans le sens où Loïc était un acteur crucial et majeur dans le web, sur la partie plateau et speaker, mais en termes de c'est un petit peu comme à l'époque de B2L et RapidSight, c'est-à-dire que je prends le web à bras le corps qui devient une vraie boîte à ce moment-là. Ouais. Je disais, on avait passé ce tipping point de 1000 personnes et donc je m'entoure, parce qu'avant je faisais à la mano, donc je m'entoure avec l'équipe, comme je disais, de 4-5 personnes. Ouais. Et puis Loïc monte Sismic. Il faut voir qu'en 2007, c'était juste avant le lancement de l'iPhone, etc. Donc on était au tout début aussi d'une nouvelle ère.
D'accord. Et du coup là à ce moment-là, vous avez, donc là-bas, tu recrées ton setup, t'as bureau, t'as tes enfants qui vont, tu réorganises toute ta vie.
Ah bah je suis surtout très home office là-bas, parce que comme le web est à Paris. Et que comme le web est à Paris et que voilà, j'ai pas de salarié, j'ai pas d'employé avec moi, donc je fais beaucoup de home office, je viens beaucoup à Paris et je fais beaucoup de rendez-vous là-bas. Mais en termes de setup, c'est du home office, oui.
Et ça doit être quand même dur, parce que venir beaucoup à Paris de San Francisco, c'est 9 heures de décalage.
Je mentirais si je disais c'est dur, parce que pour moi c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui me plaisent ici. Et beaucoup de choses qui me plaisent d'un point de vue business à San Francisco. Donc pour moi, ça a toujours été une chance que de pouvoir faire les deux. D'accord. D'avoir un pied ici, un pied là-bas.
Et c'est quand même assez magique et assez fou, cette quand tu te projettes dans tout ça, te dire que tu gères un événement qui est à Paris depuis San Francisco, toute seule en home office, donc avec des équipes qui sont plutôt en France.
Oui.
Les rendez-vous avec les sponsors, c'est toi qui les fais quand même, j'imagine.
Oui, en France.
En France.
Souvent de visu, donc c'est pour ça que je viens souvent. Parce que, bon, pour signer de gros budgets. Mais je fais aussi pas mal de rendez-vous à San Francisco, parce que les Google, par exemple, tout ça, les Facebook, c'est des rendez-vous que je fais directement en HQ, enfin à la source.
D'accord. Et donc, le web grossit jusqu'à donc 4000 personnes.
Oui. Un événement à Londres.
Un événement
en
à Londres.
Plus de Paris.
Et donc, il s'appelle comment?
Il s'appelle le web aussi.
Le web, d'accord. Et finalement, vous le vendez.
Oui.
C'est ça?
Mm-hmm.
Donc, à Reed, si je me trompe.
Reed Midem, absolument.
Oui. Euh, et, euh, Et donc ça, c'est un, j'imagine aussi un autre tournant parce que c'était quand même une sacrée structure. Mm-hmm. Et vous restez impliqué quand vous...
Oui, moi pendant 2 ans et demi, j'ai accompagné et Loïc aussi. On reste impliqué sur l'événement avec Rhythm Idem. Oui.
Pour finir, si je ne me trompe pas, par le racheter.
Oui.
D'accord.
Moi, je crois que ça c'est anecdotique, mais c'est un peu ce côté. Nos boîtes, c'était un peu nos bébés, et c'est vrai qu'après 10 ans de dur labeur, parce que franchement, pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est amusant. Un jour, mon fils Greg, donc qui est le plus jeune, qui a 17 ans maintenant, mais donc qui a vécu la période le web en étant petit, m'a dit mais tu travaillais comme une dingue, et je disais c'était du home office, et de toute façon, et en fait il avait ce sentiment que de toute façon si j'avais pas été à la maison ou pas disponible, c'était pareil parce que j'étais à partir du moment où j'étais derrière mon bureau, il fallait pas me déranger. Donc voilà, enfin donc vraiment beaucoup bossé, mais ça c'est normal, c'est tout le monde, hein, je veux dire, c'est à partir du moment où on a sa boîte, on est corps et âme. Enfin, j'espère, je pense que c'est important. Et donc je les ai accompagnés et puis on a racheté.
D'accord. Et du coup, la vente a été faite quand? En quelle année?
Attends, je vais te dire des bêtises.
2015.
2013, non, d'accord. 2012, 2000, je sais plus, ça paraît bizarre, mais je sais plus.
Ok, je le mettrai dans les notes du podcast.
Je regarde, mais parce que comme j'ai continué, si tu veux, je sais que le web, effectivement, on a la dernière édition était 2014, donc ça, oui, c'est ça, c'était plutôt 2012, je pense.
D'accord. Et aujourd'hui, c'est un projet donc qui vous appartient, qui est mis de côté, qui est fermé, qui est...
Voilà, c'est non, je pense que aujourd'hui Loïc maintenant fait Leaders, ouais. il fait aussi des événements, mais avant tout c'est une plateforme, et je pense qu'il y a un vrai besoin, parce que ça aussi c'est identifié par rapport à ce qu'on a fait sur le web, c'est une plateforme pour aider à détecter des talents, des speakers, et je pense qu'il y a, voilà, c'est compliqué quand on n'a pas le réseau, mais d'un autre côté il y a tellement d'événements maintenant, oui.
Il y en a tellement que même quand on a la chance d'être invité sur certains, moi une fois sur deux je peux pas y aller alors que j'ai très envie.
Il y a des boîtes à faire tourner derrière, donc on peut pas passer sa vie dans des événements, même s'il y a une grosse valeur ajoutée, si c'est bien préparé sur certains, donc non, je crois que c'est une période de ma vie. Et
je pense que si on m'invitait à South by Southwest, j'irais quand même.
Ouais. Oh bah South by, c'est un truc un peu particulier, c'est quand même une grosse fête. Ouais. Plus qu'un événement en soi, enfin c'est une semaine, c'est voilà, donc puis c'est dans la ville, enfin c'est très particulier, mais voilà, c'est ça vaut le coup. C'est en ce moment.
Et le l'événement, c'est quelque chose qui te branche toujours à fond ou...
Ah moi j'ai donné 10 ans à faire des événements, donc ça va. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Je sais ce que ça représente comme somme de travail. Je sais que et puis il y a un petit il y a un côté absolument génial parce que justement c'est un événement, il se passe quelque chose de très intense à un instant T, mais en même temps c'est compliqué, c'est un business extrêmement compliqué.
Et pendant les jours de l'événement, il se passe quoi dans ta tête, enfin c'est, tu dors, tu
je dors, non, je dors pas justement. pendant les jours de l'événement, ouais. Tu es en mode vigilance permanente, et puis tu essaies d'éteindre les feux s'il y a des feux, et puis tu
il y en a toujours, non,
il y en a toujours, mais encore une fois, comme je t'ai dit, j'avais 3-4 personnes extrêmement stratégiques autour de moi et avec qui on fonctionnait en toute confiance. Alors de mon point de vue, comment j'ai réussi à faire fonctionner ça à distance, c'est avec une extrême organisation, c'est-à-dire que tout était cadré et très chacun savait où était, enfin ce qu'il devait faire, et aussi avec énormément de confiance. Je me suis toujours entourée de gens à partir du moment où je disais où on décidait que leur mission c'était celle-ci ou celle-là, j'accordais ma confiance. Alors il fallait pas la trahir dans le sens où effectivement, mais j'étais pas derrière les gens en disant en allant vérifier en voilà, mais c'est sur un noyau de personnes, sur un très petit nombre de personnes.
Et si jamais tu avais je sais pas 2-3 petits conseils à donner, des petites recettes pour réussir un événement, il y a des choses qui deviendraient quand même 10 ans sur un tel succès, T'as dû apprendre.
Alors, je viens de le dire, c'est-à-dire c'est l'organisation et puis d'anticiper beaucoup les choses. Tout ce qu'on peut anticiper, tout ce qui peut être préparé en amont, c'est important de le faire parce qu'il y a toujours des feux à éteindre au dernier moment et qu'on n'a pas vu venir. Donc, il ne faut pas se dire, bon, bah, j'aurai le temps d'eux sur tous les détails. Et puis, voilà, et puis vraiment paramétrer au maximum. Il y a des stress énormes dans un événement. Le jour où vous ouvrez un événement, vous avez la commission de sécurité qui passe le matin à 7h du matin pour savoir si vous pouvez ouvrir. Et il faut être capable d'éteindre ces feux-là si ce monsieur vous dit bah non, vous pouvez pas ouvrir parce que là il y a un problème de sécurité. Enfin, il y a plein de paramètres. Un événement, c'est une somme de micro-détails. Mmh. Et je pense que une jolie production et un événement qui réussit, c'est quand c'est tous ces détails qui se voient pas. Et puis on le dit souvent, hein, le diable est dans le détail. Mais voilà, parce que voilà, quand les gens arrivent, il faut qu'ils aient leur badge, parce que quand le contenu aussi est très important.
C'est ce que j'allais te demander.
Est très important. Nous, c'est la ligne éditoriale, c'est quelque chose.
Toi, ça aussi ?
Non, c'est Loïc.
D'accord.
Et donc la ligne éditoriale était très importante avec une vraie volonté de séparer le sponsorship de la scène. Et je crois que ça c'est aussi ce qui fait vis-à-vis de l'audience un respect aussi des gens qui payent le ticket
comme dans un média quoi. C'est pas parce que Samsung te paye quelque chose que tu vas parler de Samsung pendant tous les deux jours.
Non.
Je dis Samsung, Nokia, peu importe, mais
non, mais oui, c'est important. Alors après, ça veut pas dire que vous avez pas Marissa Mayer sur scène et que Google est sponsor, évidemment. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Je pense que c'est important et c'est un respect de son audience parce que les gens ont envie d'entendre des choses et pas des discours commerciaux.
D'accord. Et du coup, après, tu bosses en tant que salarié pour la première fois de ta vie ou comment ça se passe ?
Non, je suis pas salarié de Readmidem, mais oui, je bosse dans une entité, dans une grande boîte pour la première fois de ma vie, avec d'une grande boîte, on va dire, pour la première
D'accord.
fois.
D'accord. Tu es quand même hors des systèmes politiques et.
J'ai plus les manettes, hein. Je suis plus au poste de pilotage, mais j'accompagne. Je suis
mais
là.
Tu vis comment ? Ça a pu être au poste de pilotage, ça doit être un peu dur, non ?
Mal. Ouais. Mal parce que le web est une start-up.
Oui.
Et comme je dis toujours, il faut surtout dans ce type d'événement, il faut être une balle rebondissante. Et y a des moments où on fait des choix qui sont aussi un peu des gut feeling et on se dit bon ben tiens ça il faut que je le fasse, ça je vais le faire comme ça en gardant tous les paramètres économiques en tête. Et ce qui est compliqué dans les grands groupes, et j'en veux pas du tout aux gens avec qui j'ai bossé, c'est juste parce que c'est comme ça, c'est que si tu n'es pas capable de sortir ton tableur Excel à la virgule près, et puis qu'il soit validé par un certain nombre d'entités, ben du coup ça marche pas. Et puis ça prend du temps. Donc souvent tu peux pas prendre des décisions rapides. Et quand tu vois un train passer, tu dis bon, il faut prendre le wagon. On va sauter dans ce wagon. Ben le train est déjà passé. Donc c'est ce côté-là avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Et puis j'étais plus chez moi.
Ouais. D'accord. Et du coup, après le web, qu'est-ce qui se passe? Tu crées, donc là aujourd'hui tu as The Refiners, entre le web et The Refiners.
Il n'y a pas eu grand temps.
D'accord.
Il n'y a pas eu grand temps. Il y a un chemin personnel que j'ai dû gérer puisqu'on a divorcé.
D'accord.
Mais
qui est du coup personnel et professionnel. Je veux dire, à la limite, c'est plus le professionnel qui m'intéresse.
Ouais.
On n'est pas là pour parler de ta vie privée. Mais ce qui est intéressant ou potentiellement. C'est que vous avez monté des business ensemble pendant très longtemps, 20 ans. Et à un moment, au-delà de ton époux, ton mari, il y a quand même ton associé de toujours que alors vous pouvez peut-être toujours bosser ensemble, ça j'en sais rien, mais en l'occurrence, ton associé de toujours vous faites deux choses différentes.
Ouais, on prend des chemins séparés.
Donc, tu trouves tes associés.
C'est bizarre, hein. Bizarrement, c'est bizarre. Je sais pas, il faudra demander à Loïc s'il a trouvé ça bizarre, mais je pense que oui. Donc, oui, il faut reprendre des marques différemment. et puis faire par soi-même, et puis aussi faire. Moi, j'avais fait un choix très sincèrement professionnel qui était dès le départ que je raisonnais famille, prendre la lumière, c'était pas, ça faisait pas partie de mon, pour moi c'était une entité qui réussissait, ça marchait, on avançait, etc. Et effectivement, à partir de là, à un moment donné, il faut sortir un peu de derrière le rideau et puis se dire maintenant il faut aller en frontal plus que juste, enfin juste, mais en tout cas avoir une part beaucoup plus présente de communication aussi.
Parce qu'en effet, il y a des dimensions, j'imagine, quand on est, pour revenir à cette période d'avant, quand on est marié et associé, un peu de plein de choses, c'est-à-dire qu'on mélange plein de choses, du coaching, du j'imagine que le soir tu fais pas complètement la
jamais
tu te dis pas bon ce soir on est entre nous, on parle plus de business quoi,
non, on a toujours assumé, on a toujours parlé business, ouais. et ça a pas posé de problème et ça nous a jamais, quand il fallait parler business, il y a des moments, je me souviens d'un jour pour le web, sur un des derniers le web, où on était à quelques semaines de l'événement et on était devant un café et enfin on était chez nous en train de prendre notre café, puis tout d'un coup on dit mais attends, il y a Black Friday qui arrive là, bah oui mais attends on va faire un Black Friday, et puis à 9h du mat on mettait le Black Friday pour une promo sur les c'est comme ça, c'est ni un choix ni une volonté ni c'est fibreux, voilà, oui. Comme ça on a commencé, on s'est connus, on avait 16 ans, on s'est mariés, on avait 20 ans, on a commencé nos business ensemble. C'était un fil rouge qui était une cohésion et c'était pas un problème du tout.
D'accord.
Ça nous empêchait pas de faire d'autres choses, hein. Mais c'est vrai que le professionnel était ultra présent. Ouais.
Mais c'est marrant parce qu'en effet, quand tu te projettes, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, et ben, en tout cas moi j'imagine, hein, mais je me dis bosser. Enfin, j'ai l'impression que je m'écharperais la gueule tout le temps avec le couple. Et c'est marrant d'avoir eu autant de implication.
Oui, je pense que c'était une collaboration extrêmement profonde, et puis une complémentarité aussi qui fonctionnait extrêmement bien. Je pense qu'en d'un point de vue business avec Loïc, on fonctionnait extrêmement bien.
C'est une très belle histoire. Et du coup, trouver de nouveaux associés, ouais. Un nouveau mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de Carlos et de Pierre. Tu peux me raconter un peu l'histoire de The Refiners et comment ça s'est créé, comment?
Je suis pas allée chercher de nouveaux associés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc le web pour moi, c'était pas un business de conférence. C'était vraiment une connexion entre les gens, etc. Comme je te le disais tout à l'heure. Et donc je me projetais dans comment je peux continuer à aider les entrepreneurs. Donc j'étais vraiment dans cette réflexion là et donc j'ai croisé le chemin de Carlos qui est venu me voir puisqu'il était aussi lui à San Francisco et qui m'a dit écoute voilà avec un copain on est en train de réfléchir à quelque chose, on a discuté, j'ai dit ah bah c'est chouette, moi aussi je suis vraiment dans ce type de réflexion là et il me dit aujourd'hui je viens de voir parce que est-ce que ça pourrait t'intéresser d'investir. Et puis je l'ai arrêté tout de suite et je lui ai dit non, en fait ça m'intéresse pas d'investir, mais par contre c'est tellement aligné avec la réflexion que j'ai aujourd'hui que ça m'intéresserait qu'on puisse imaginer le faire ensemble. Et en 48 heures, on a décidé de s'embarquer ensemble dans l'aventure.
Donc ils n'avaient pas vraiment commencé, ils étaient encore au stade de projet.
Ouais, ouais. C'est vraiment, enfin, des fois il y a une espèce de timing serendipity, qui fait ils avaient commencé puisqu'il était dans un état d'esprit de commencer à chercher des investisseurs pour le projet, mais il n'y avait rien d'extrêmement concret. Et donc du coup, on s'est embarqué dans cette aventure là.
C'est assez marrant parce que j'ai alors serendipity, c'est ce mot, ce buzzword qui revient beaucoup dans ce podcast. Si je peux le réexprimer, c'est le fait de rencontrer des gens beaucoup à un bon moment et de se retrouver finalement aligné.
Pour moi, c'est time and luck.
Oui, c'est ça.
Et donc, tu as le bon timing. Si c'est trop tôt, comme on disait tout à l'heure, tu vois, le studio, c'était trop tôt, par exemple. Donc, si c'est trop tôt, c'est pas bon. Et puis après, c'est le facteur chance. Mais ce facteur chance, tu peux quand même le provoquer. Par exemple, dans ce cas précis, tu le provoques dans le sens où tu dis, mais écoute, j'y vais, je prends le risque. J'aurais pu lui dire, ah oui, ça m'intéresse et j'investis. Voilà. Donc c'est cette.
Et alors, ce qui m'intéresse de ton point de vue là-dessus, c'est que à la fois il y a ce côté pour le provoquer, il y a quand même un. Il faut rencontrer du monde. Oui. C'est-à-dire qu'il faut boire des cafés, déjeuner avec des gens, passer ta vie à rencontrer du monde. Et à l'inverse, j'ai une grosse réflexion en ce qui me concerne, mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont là-dessus, c'est de se dire, à un moment, j'ai juste plus le temps de rencontrer du monde. C'est-à-dire qu'il faut aussi me focus sur mon business. J'ai des clients, j'ai des employés, j'ai des choses à faire. Et donc, tout dépend de ton rôle dans ta structure. Mais toi qui as été très, très sollicité. Alors, Pierre Valade me disait, en l'occurrence, que lui, il arrête de prendre des cafés juste pour prendre un café. Que s'il n'y a pas un objectif ou quelque chose... Et du coup, ça limite cet effet de sérendipité. Largement, ça l'arrête presque, enfin... Et à l'inverse, le fait d'avoir des bureaux partagés, ça le recrée. Enfin, il y a pas mal de choses qui font tout ça. Toi qui as été extrêmement sollicité, parce que le web quand même, entre les gens qui voulaient des tickets gratos, les gens qui voulaient participer à la conférence, les gens qui voulaient vous héberger, les gens qui voulaient je sais pas quoi, vous sponsoriser, t'es passé j'imagine par plusieurs phases. Mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu te protèges beaucoup et tu refuses beaucoup de choses? Est-ce que tu, au contraire, t'es
Alors, il y a un peu deux parties dans ta question. Et la première, c'est que je pense que je suis devenue... J'ai une vision maintenant très américaine des choses. Mmh. Tu mentionnes prendre un café pour prendre un café. C'est un truc qui n'existe pas aux États-Unis, en fait, prendre un café pour prendre un café. Tu as toujours... Il y a toujours une notion du pourquoi. Pourquoi on se voit. Bon. Alors, parfois, ça peut paraître un petit peu abrupt.
Et mais autant, ça... en France, c'est perçu vraiment voilà. comme...
Mais en même temps... ça te permet de faire ce tri que tu mentionnes, c'est-à-dire de dire ok, on se voit. Après, il y a un autre facteur aussi, c'est le facteur temps. En France, le problème, c'est que si tu dis je vais prendre un café pour prendre un café, ce qui est parfois, enfin qui peut être vraiment très agréable et très sympa de rencontrer des gens comme ça, ça va te bouffer une heure, ça va te. Mmh. Aux États-Unis, il y a aucun problème à dire je t'accorde 20 minutes. Et où je t'accorde, enfin, tu vois, 20 minutes, je pense que c'est à peu près le. Mais voilà, on se voit 20 minutes. Alors, ça implique aussi que si t'as rendez-vous à 2h de l'après-midi, t'es là à 2h et qu'à 2h20, c'est fini. Donc, tu es précis.
Et c'est marrant, ça choque hein, vraiment en français. C'est-à-dire
ouais, on c'est précis, concis. Et, mais tu sais, c'est très efficace. Et finalement, ça veut pas dire que tu construis pas une relation sympathique avec la personne. Ouais. Au contraire, parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Si le pourquoi on se voit doit avoir une suite, elle aura une suite. Et donc, du coup, ce rendez-vous va s'étendre dans la suite de la conversation avec d'autres rendez-vous, ou avec une connexion avec une autre personne. Parce que ça peut être aussi, écoute, voilà, je vois que tu connais bien machin, on se connaît bien. Voilà, je voulais te parler de... Et pour faire la connexion, c'est un peu dans l'email, si je digresse un petit peu, mais dans l'email, c'est l'histoire du double opt-in, tu vois. C'est de dire... Aujourd'hui, tu vois que je suis connectée avec quelqu'un ou que je connais bien quelqu'un et tu me dis j'aimerais bien que tu me présentes cette personne. En France, le gros problème, c'est que on va t'envoyer le mail en disant ah ouais, tiens Géraldine,
ça, je suis d'accord,
je connais machin qui veut te rencontrer. Et là, tu te retrouves dans un espèce de corner. Ce qui se passe aux États-Unis et qui, à mon avis, beaucoup plus sain, c'est que tu vas faire ce lien en me disant bon, je vais te dire écoute, ok, je vais contacter la personne en question. Je lui dis tiens. Mathieu ouais. voudrait te rencontrer. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, etc. Ben, donc, tu mets ton. Et là, tu as un oui ou un non. Si tu as un oui, c'est très bien, tu fais la connexion. Si tu as un non, tu retournes vers Mathieu, tu dis écoute, je suis désolée, je pense qu'il n'a pas le temps, ou en tout cas, il n'y a pas vu l'intérêt. Donc, ça, je pense que c'est aussi. Tu peux structurer, en étant très focus sur ton business, ces liens avec l'extérieur, avec des nouvelles personnes, de manière. On va dire peut-être moins française et puis gérer ton temps. Et je pense qu'il n'y a pas de problème à dire à quelqu'un, écoute, je veux bien te rencontrer, mais j'ai vraiment que 20 minutes parce que, j'ai un business à faire tourner.
Et c'est mieux que
plutôt que de lui dire, je te rencontre pas. Oui. Voilà. Donc ça, c'est peut-être mon côté américain. Après, l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, c'est que j'ai envie de donner, en fait. J'ai envie de partager. Alors, c'est peut-être aussi vis-à-vis des femmes entrepreneurs, etc. Mais je me dis que bon, si je peux apporter un petit truc, j'ai bien envie de le partager. Mmh. Donc, j'ai rarement tendance à refuser des meetings, sauf si vraiment je peux pas. Et que voilà, bon, ça colle pas dans l'agenda. Mais en général, je suis plutôt, ouais, je prends plutôt les meetings. Mais encore une fois, je sais que c'est, mais bon, je peux dire oui, j'ai une demi, je veux bien qu'on se voit une demi-heure ou voilà. Il faut pas que ça peut pas être des meetings de 3 heures, c'est sûr. Et je préfère qu'il y ait un peu un call to action, tu vois, de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi concrètement, voilà.
Je rebondis sur ce double opt-in sur les mails, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important. Avant
c'est
de faire une mise en relation, demander à la personne à qui je le fais presque tout le temps, peut-être pas tout le temps, par moment, j'oublie un peu, mais je le fais quasiment tout le temps. C'était Simon Davlat dans le tout premier épisode de Génération Do It Yourself qu'on parlait. Et en effet, en plus, ça a plusieurs bénéfices parce que ça permet aussi de toi reconnecter potentiellement avec la personne avec qui tu envoies cette demande, etc. Donc, je pense que
ouais,
c'est
le. Oui, puis bon, voilà, je pense que c'est juste, c'est normal, puis c'est un respect de tous, enfin, voilà.
Oui, parce qu'à un moment, que quelqu'un t'envoie comme tu disais, te mets dans ce corner.
T'es dans un corner, ouais. Et puis c'est très difficile. Du coup, tu es plutôt mal parce que, en général, tu aimes bien la personne qui t'a envoyé l'email et qui t'a présenté quelqu'un d'autre. Et bon, alors si voilà. Tu le connais bien, tu dis-moi la prochaine fois.
C'est à ce moment-là que je remercie d'ailleurs Camille Sabal qui nous a
connecté en double opt-in.
Voilà. Et que je peux avouer mon espèce d'énorme arnaque que je fais avec ce podcast, c'est que. Grâce à cet enregistrement, je peux avoir 20 minutes, plus de 20 minutes avec Géraldine.
Ouais, non, t'en aurais donné plus de 20.
et voilà. Donc, je suis ravi. Donc, The Refiners, avec Carlos et Pierre, qu'est-ce que vous faites exactement?
Alors, écoute, aujourd'hui, on aide des entrepreneurs non américains à penser et à aller global le plus rapidement possible. Donc, en fait, ça veut dire simplement que souvent, on se plaint en France, je vais prendre le cas de la France, hein, mais qu'on n'arrive pas à avoir les champions mondiaux, qu'on se fait bouffer par les Américains, voire par des Asiatiques, etc. Je pense que ça vient d'un problème un petit peu d'ADN, qui est que on a une chance en France, c'est d'avoir un marché qui n'est pas petit, mais qui n'est pas très gros non plus.
C'est une forme de chance et de malchance.
Voilà.
On est ni
alors,
la Suisse
monde,
ni le Portugal, mais
exactement. Alors tout le monde loue beaucoup dans l'univers startup, hein, j'entends, loue beaucoup le modèle israélien. Mais forcément, ils n'ont pas de marché, donc ils partent tout de suite. Or en France, comment on peut très vite, relativement bien, en tout cas vite, rentrer dans une zone de confort? Avec un peu de clients, etc. Et après, c'est très difficile. Et je crois que le modèle de se dire, après, j'irai à l'international, je vais d'abord voir ce que je peux faire en France, signer quelques clients, tester. C'est un petit peu dangereux parce que ça veut plus rien dire aller à l'international. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, Attends, je fais juste une parenthèse. Il est tout à fait louable d'avoir des boîtes franco-françaises. Non, mais ce que je veux dire, voilà, il est tout à fait super d'avoir des boîtes franco-françaises ou des boîtes qui ont une vocation régionale. Aucun problème. Sur les boîtes sur lesquelles nous, on travaille et qui ont une tech, qui ont un potentiel global, on a ce vrai credo et cette vraie conviction qu'il faut penser global dès le début. Donc, il faut attaquer par la face nord. Attaquer par la face nord, ça veut dire arrêter d'opposer les écosystèmes. On fait des choses absolument magnifiques en France, à mon sens, plus en termes de techno et de produits que de boîtes à part entière. Oui. Encore une fois, dans la tech. Après, il faut aider justement ces technos, ces produits à se positionner d'un point de vue global. Et dans la tech, il y a un passage, c'est San Francisco. Pourquoi? Si je te prends le cas du B2C, comment je trouve aujourd'hui en France un expert qui peut m'expliquer une marketplace B2C, comment développer sur des centaines de millions de personnes? Aux États-Unis, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui ont... il y a des recettes, il y a un livre de cuisine, il y a des choses... Donc, ça sert à rien de réinventer l'eau tiède. Il faut s'en inspirer. Mais en même temps, il ne s'agit pas non plus de plus rien faire en France. Donc notre vision, c'est d'aider les boîtes à se mettre sur la bonne trajectoire, à la fois en France et aux États-Unis, et en apprenant de ce qui se passe dans l'écosystème américain. Et puis que quand les entrepreneurs appuient sur le bouton, cette trajectoire, bah, elle puisse au moins leur donner la possibilité de mettre le satellite en orbite. Après, est-ce que le satellite doit être en orbite ? Ça, personne ne le sait. On n'a pas de boule de cristal. Mais c'est vraiment ça. Quand on nous dit oui, mais c'est dur, la boîte elle est petite, les 9 heures de décalage, et puis être à la fois aux États-Unis, puis à la fois en France. Oui, mais de toute façon, ça va toujours être dur. Donc autant commencer dès le départ, comme je disais, par la face nord, et puis se mettre bien dans les starting blocks et comprendre quels vont être les enjeux de cette boîte globale, plutôt que de se mettre en zone de confort et puis après de se dire « Ah, peut-être je vais y aller ».
Oui, on voit en effet, il y a quelques exemples qui arrivent à partir de France et sans forcément passer par les US, j'ai eu notamment ici Christian Georges, Vestiaire Collective, mm-hmm. qui raconte l'hyper croissance de Vestiaire Collective et c'est complètement hallucinant.
Mais
c'est
une aussi très belle
boîte. C'est des niches où la France a alors pour le coup potentiellement de temps en temps un avantage concurrentiel, notamment sur le luxe et sur les objets de luxe, donc qui est plutôt mondial. Donc il y a des prismes sur lesquels tu peux aller là-dessus, mais en effet, ma vision, grâce à toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec Alice Zaguri, que j'ai pu avoir avec Thibaut Elzière, on prend souvent cet exemple israélien en l'occurrence, qui est de dire en fait il voit un marché global immédiatement, et je respecte aussi ce que tu dis sur le côté régional ou local, enfin
ah oui, belle boîte locale, très belles boîtes,
des grosses PME qui font du business
et qui ont une vocation
Bretagne,
locale puis, voilà, hein, je veux dire voilà, ça dépend du marché qu'on sert,
hein. Exactement,
mais on parle vraiment de tech qui tout d'un coup on a dans nos boîtes des jeunes qui réinventent la manière de se laver les dents. Il se trouve que
Prodontis.
Ouais, qui s'appelle Willow maintenant.
Ah, mais Ilan, donc que j'ai reçu.
Ilan et Hugo qui a créé la boîte au départ. Mais Willow. Bon, ils étaient à Limoges à la base. Oui. Donc franchement, je pense que c'est juste compliqué. Et alors encore une fois, il faut pas se dire, en tout cas chez The Refiners, nous on dit pas aux gens flippez votre boîte, venez tout aux US. D'abord, on investit dans des boîtes françaises avec un fonds américain. Donc on a et puis si à un moment donné il faut recalibrer, flipper la boîte aux US, etc. Il sera temps de le faire parce que il y aura des vraies raisons, peut-être des investisseurs qui veulent pas investir autrement que dans une boîte. Mais c'est pas toujours le cas. Donc il faut vraiment s'adapter à chaque cas précis. Et puis, je pense que ça permet d'identifier les trous dans la raquette, de venir apprendre, de venir comprendre et de un petit peu d'ouvrir ses horizons, de sortir et se dire « Ah oui, finalement, maintenant je vais orienter, même depuis la France, je vais orienter ma boîte différemment. Oui. » Et puis comme ça, peut-être que je vais pouvoir lui donner cette envergure qu'elle mérite. Et on accueille des entrepreneurs pas que français, on a des boîtes UK, belges, on a une boîte allemande. Donc on essaie vraiment, je pense que la problématique, elle n'est pas française, elle est européenne.
Mais c'est vrai que c'est un changement qu'on sent assez récent, parce que alors nous, on a donc un startup studio ici qui s'appelle Padrino. On crée des boîtes, on a créé il y a quelques années une boîte qui s'appelle WeFlash et qui fait des shootings photos en masse, notamment pour des agents immobiliers, pour Uber Eats, pour voilà. Et donc dans la deuxième levée de fonds, la plupart des gens qui accompagnent WeFlash nous disent faut pas tout de suite voir le marché américain, c'est encore trop loin,
c'est encore français.
Et en l'occurrence on sent quand même, comme tu le dis, c'est tellement français, je pense que c'est un peu, pour le coup, dans les Français, il y a Thibaut Elzière dont je parlais, il y a Alice, il y a pas mal de gens, il y a vous aussi maintenant qui disent, mais en fait, c'est même pas
Thibaut,
au premier...
ils ont fait, franchement, ils commencent à prouver le modèle, ils ont des belles choses, ça prend du temps, évidemment. Beaucoup d'énergie et un peu d'argent aussi.
7 ans sans gagner un euro.
Voilà.
mais oui. Et du coup, je trouve que c'est intéressant comme idée, vraiment, et quelque chose qu'un vrai, pour moi, acquis grâce à toutes ces discussions que je peux avoir. Et du coup, comment ça se transforme tout ça en réel? Moi, je prends un exemple. J'ai Jean-Charles Kurdali que j'ai reçu sur ce podcast, qui a créé une boîte qui s'appelle Fetch. Il est à Metz et il a créé une boîte qui fait de la livraison de food. Donc il y en a plein, mais lui il s'est focus sur des villes secondaires. Avec un business qui est plutôt éprouvé, et il va sur des villes, alors en France en tout cas, plutôt entre 100 et 200 000 habitants, qui généralement sont pas couvertes. comment vous bossez avec lui? Comment c'est lui qui doit venir vous voir? Comment ça se passe? C'est quoi le modèle? Tu dis vous êtes un fonds, donc vous n'êtes pas un accélérateur?
On est un accélérateur parce que je crois qu'on tombe dans le bucket de l'accélérateur, mais d'accord, on n'aime pas ce terme-là.
Donc, d'accord.
Parce que je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais...
Donc vous êtes quoi? Vous faites quoi? Comment ça se
matérialise? Pourquoi je dis qu'on n'est pas un accélérateur? C'est parce que je pense qu'on fait plus, on aide plus les boîtes à sortir la tête du guidon en termes et faire un reset. Et comme je le disais, hein, l'importance de la trajectoire et de se dire, bon, mais comment. Et puis, on combat aussi beaucoup la vision du short term. C'est une boîte, une start-up, et tu le sais comme moi, c'est 5 à 10 ans de vie. C'est, voilà. Donc oui, on aide les gens à gagner 6 à 12 mois sur l'évolution de la boîte, sur un certain nombre de points très importants, identifier leur go-to-market, et voilà, des choses qui vont être vraiment cruciales, qui sont pas et puis aussi qui vont les aider à aller plus vite à la levée de fonds. Mais pour le coup, voilà. Donc ça, c'était dans le cas précis que tu viens de citer, nous, ce qu'on regarde, c'est d'abord une tech. Est-ce que aujourd'hui l'équipe a une tech, parfois un produit, mais qui a une vocation globale. Dans ce cas précis, je pense qu'il est plus sur un principe multilocal.
Oui.
C'est-à-dire que il va se développer en France, mais il va peut-être se développer aussi en Allemagne et puis en Espagne, un peu si tu veux sur des modèles comme BlaBlaCar qui sont des voilà,
du multilocal. Il faut lancer ville par ville presque.
Voilà, ouais. Du multilocal. Il est aussi sur un champ où il n'y a pas particulièrement de tech. C'est à part le back-office, de la gestion des livraisons, etc. Mais il n'y a pas d'innovation tech dans le sens où ça va changer un usage complètement. Et il y a beaucoup de choses aux États-Unis. Donc, ce n'est pas forcément le profil d'entreprise qu'on peut aider parce que...
Désolé, Jean-Charles.
Et je pense que c'est une très bonne idée en tant que telle parce que vraiment, il y a une problème. C'est dommage que ce soit offert qu'aux gens des grandes villes.
Mais il n'a rien demandé. Hein, donc c'est
voilà. C'est... Mais je pense... Voilà. Et puis, il pense probablement pas aux US parce qu'il a raison, il a pas de raison forcément d'y penser et il a suffisamment à faire en Europe. Mais donc nous ça va être l'identification d'une équipe avec en général un tech, un non-tech, un co-founder tech, un co-founder non-tech, une jolie promesse. Et ce qu'on constate aussi souvent, c'est que les entrepreneurs en Europe vont tout de suite nous parler du produit. Des features qui sont parfois aussi la conséquence de POC signés avec des grands groupes qui ont donné les premiers petits contrats à ces boîtes-là et qui ont demandé la feature ronde alors qu'ils pensaient carré. Et on va plutôt nous les aider à aller vers une vision. Alors un exemple, pour te donner un exemple concret, on a une très jolie entreprise qui s'appelle Lalilo, qui est à la fois en France et aux États-Unis maintenant, qu'on a accompagné. C'est une belle équipe technique, des jeunes polytechniciens, et qui avait une vraie volonté d'aider les enfants dans l'apprentissage de la lecture. Parce que, et ils ont ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros besoin, qu'il fallait aider les professeurs. Il y a même un des jeunes de l'équipe polytechnicien qui est allé passer 6 mois dans une classe de CP pour vraiment comprendre le pain point d'une maîtresse ou d'un maître. Et donc, quand on les a rencontrés, ils avaient ce début de tech extrêmement prometteur parce que, évidemment, je te passe sur l'AI et donc un outil pour les professeurs. Et ils nous disent, on veut aider les maîtres et les maîtresses pour que les enfants aient moins de problèmes dans l'apprentissage de la lecture. Aujourd'hui, quand tu leur parles, ils t'expliquent qu'ils veulent mettre fin à l'illettrisme. Et je pense que c'est leur vraie mission. Je pense que c'est leur vraie mission qu'ils ont. Voilà, c'est leur but. Le produit tel qu'il est aujourd'hui, c'est un arrêt sur image à l'instant T de ce qu'ils vont accomplir pendant 5 à 10 ans. Et donc, on a ce travail un petit peu de reset, de sortir la tête du guidon, d'identifier aussi les trous dans la raquette. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Pour qu'au bout de 3 mois, donc on a un programme de 3 mois, on investit en amont. Entre 50 000 et 100 000 dollars. Et au bout de 3 mois, ils aient des fortes convictions, ils comprennent la trajectoire qu'ils ont envie de prendre, et puis ils puissent aller à la levée de fonds, qui ne se fait pas pendant le programme. Il n'y a pas d'arbre à billets, hein, ni aux États-Unis, ni en France. Donc après, c'est un processus qui demande énormément de travail. Ça aussi, c'est souvent mal compris par les entrepreneurs, mais c'est voilà, c'est beaucoup de travail, énormément de rendez-vous. Je pense que pour lever de l'argent, il faut
50.
Faut au moins 50, ouais. Voire 100 rendez-vous, ouais. Et avoir 190 noms et peut-être 3 oui. Enfin,
certains et le reste réussissent. Des j'ai eu Pierre Valade qui raconte que lui, il n'avait même pas de deck et puis que voilà. Mais
oui, après il y a le côté repeat entrepreneur. Ouais, il y a un certain nombre de choses. Et notre investissement se positionne pas vraiment comme un VC parce qu'on fait pas une levée de fonds, 50 000, 100 000 dollars. Mais on a beaucoup en fait d'investissements intangibles avec le programme puisque on est là, on a beaucoup de mentors, on a à peu près 300 mentors. Et puis ces 50 000, 100 000 dollars, c'est pour les aider à bootstrapper jusqu'à la levée de fonds, surtout.
D'accord.
À vivre, hein, parce donc, que c'est, ouais. Ce bootstrap, c'est parfois simplement vivre en tant que vivre au quotidien.
Et c'est financé par toi, par d'autres personnes, par des fonds derrière.
On a levé un fonds. On D'accord. a levé un fonds de presque 7 millions de D'accord. dollars. Et et on s'est donné une mission, donc vraiment en mode start-up, pour le coup au départ, parce que Pierre, Carlos et moi sommes des entrepreneurs, en se disant on va faire un proof of concept, c'est pas un métier qu'on connaît, donc on souhaiterait accompagner une soixantaine de boîtes sur 3 ans.
D'accord.
Pour ça il faut quoi? On a fait nos petits calculs, on s'est dit qu'un fonds de 7 millions faisait bien le... était le bon. Et puis ça nous a permis d'aller vite, donc on a levé ce fonds très vite en 2016. On a fait le premier batch en septembre 2016. On a commencé et on a accompagné jusqu'à présent 40 startups dans lesquelles on a investi, et puis on a le 19 mars la Fleet 4 qui arrive avec une dizaine de startups encore.
D'accord.
Donc voilà, donc on est
vous
sur
allez
une
bientôt
mission.
Arriver aux 60 alors.
On va bientôt arriver aux 60 et à la fin du fonds, oui.
D'accord. Donc nouveau fonds ou enfin aventure.
On verra la suite de l'aventure. Je pense qu'on a voilà, il faut déjà qu'on délivre ce qu'on fait aujourd'hui. Ça se passe bien, ça se passe super bien. Je pense que les startups sont contentes. On a l'idée aussi maintenant. Là pour l'instant c'est un programme de 3 mois, mais en discutant beaucoup avec les entrepreneurs, on se rend compte aussi qu'il y a une appétence et un besoin pour des programmes courts. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place assez rapidement. Des programmes d'une semaine, mais pas en mode « je vais prendre une photo devant le logo Facebook », vraiment en mode opérationnel workshop. Pendant 4-5 jours, j'essaie au moins d'identifier un certain nombre de pain points et d'avancer avec le livre de recettes des US.
Et il y en a qui restent après, beaucoup.
Oui. Il y en a qui restent, il y en a qui reviennent, qui ont identifié les trous dans la raquette, qui se préparent, l'idée de rester est assez, en fait, ils sont cross-border. Donc, voilà. La Lilo, par exemple, ils ont les bureaux à Paris, ils ont les bureaux, à San Francisco. Willow, c'est pareil. Ils sont en New York, Paris, et Limoges et San Francisco. Alors, c'est des toutes petites équipes, hein, mais c'est ce côté global, c'est ce côté, équipe un peu partout. Et puis, c'est difficile à manager, mais bon, c'est un bel exercice de style.
Super. Et ça te plaît?
J'adore.
Oui.
J'adore être aux côtés des entrepreneurs. Et puis, j'espère que on peut un peu concrètement les aider. En tout cas, souffler de l'air dans le bon sens. Certains vont peut-être pas réussir avec les boîtes qu'ils ont maintenant. Mais j'espère que l'expérience, en tout cas, déjà leur permettra de, même s'il y a des échecs, leur permettra de rebondir sur d'autres boîtes derrière. Et puis, dans l'ensemble, elle, ça se passe plutôt bien.
Si tu revoyais Géraldine au moment de B2L,
ouais,
tu lui dirais quoi?
Je ne sais pas ce que je lui dirais. Je lui dirais peut-être de réfléchir plus en termes de Géraldine que de couple. Mais je lui dirais d'être peut-être plus sur une vision personnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes femmes réfléchissent plus comme ça. Donc moi, j'ai 3 garçons, donc je peux pas dire je donnerais ce conseil-là à ma fille. Mais si j'avais une fille, je pense que je lui dirais oui, essaie de penser à ton chemin. Pas dans un égo trip, encore une fois, mais de penser ce que tu es en train... Bon, j'ai construit plein de choses, j'ai bossé depuis... Donc j'ai pas de problème par rapport à ça, mais je pense que c'est vraiment important.
D'accord. Et... est-ce que tu as des outils, des pratiques, des petites choses, des petits secrets d'entrepreneur, de je sais pas, qu'est-ce qu'il y a sur ton iPhone? Est-ce que tu cours, médites, sautes en parachute, des choses qui te font...
Pour le coup, je suis pas du tout, moi, je suis quelqu'un de très grounded, comme disaient les Américains, donc j'ai... J'ai vraiment, alors c'est peut-être, je sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais je suis très dans le concret, dans le présent, dans le voilà, donc très 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 enracinée dans, je suis voilà très enracinée dans le, ouais, dans la réalité des choses.
D'accord.
Donc je suis pas dans la méditation ou ces choses comme ça. D'un point de vue, pour moi, je pense que c'est mon caractère, mais c'est tout est question d'organisation. Je pense que il faut vraiment, si on veut mener de front sa vie de mère, sa vie d'entrepreneur ou même sa vie, dans une autre boîte, je pense qu'il faut l'organisation est clé.
Et ça se traduit comment? Ton agenda, il est comment? Ou c'est...
Ben, ça se traduit par des emails auxquels je réponds le plus rapidement possible, ouais. Et avec une inbox qui est le plus souvent possible à zéro. Ça se traduit par dans des choses très simples, être à l'heure, voilà. Ça se traduit par c'est difficile à dire, mais
des outils, t'as une to-do list, t'as tout ça, c'est dans ton email, t'as un Evernote.
Non, Evernote. Je disque le jure, mais en tant qu'actionnaire, mais j'adore Evernote. Pour moi, Evernote, c'est un outil, c'est un peu mon deuxième cerveau. C'est-à-dire que ça te permet, où que tu sois dans le monde, de retrouver tout. Donc, pour moi, c'est pas juste un outil de prise de notes, c'est surtout un outil de mémoire, en fait.
Je suis d'accord.
Avec une force qui est différente par rapport aux outils de stockage dans le cloud, c'est que tu peux rechercher un mot et ça va te ressortir le PDF où il y a le mot. Donc c'est pour ça, il y a vraiment, j'ai l'impression, tu vois, j'ai un truc branché en plus, enfin c'est de la RAM ajoutée, quoi. Donc ça c'est pas mal. En termes d'outils email, en fait, j'en utilise pas. Je suis très sur Gmail directement. Oui. Je trouve que là aussi c'est probablement la puissance de la recherche qui fait la force. Encore hier, je recherchais des emails administratifs, mais qui devaient remonter à 2012-2013. En me souvenant en fait de choses, j'ai tout retrouvé.
La seule limite, c'est le mode hors connexion. Quand t'es dans un avion, pour écouter plein de mails,
Maintenant, on est tout le temps connecté. Alors là, c'est marrant parce que, tu vois, pour moi, l'avion, c'est vraiment le moment où j'aime ce mode hors connexion. Et puis, en fait, ça me stresse un peu maintenant qu'il y a du wifi partout dans les avions.
D'accord.
Parce que ces trajets San Francisco-Paris, Paris-San Francisco, c'est 11 heures de vol. C'est une espèce de bulle où finalement tu n'as pas mauvaise conscience de pas être connecté, parce que on a cette espèce de mauvaise conscience de checker ses mails, de se dire est-ce que je réponds bien à toutes les urgences. Donc moi donc le mode offline me gêne absolument pas, c'est au contraire tant mieux.
Je suis d'accord,
je ne pouvais pas.
J'ai fait un aller-retour donc à New York récemment et le en fait la connexion sur notamment il te laisse te connecter sur WhatsApp et Messenger et pas forcément sur tout, tu peux pas aller télécharger des fichiers, des choses comme ça, c'est donc des modes très légers. Et en fait, en effet, j'ai passé mon vol à envoyer des messages, recevoir, me renseigner. En fait, c'est pour le coup, normalement l'avion, c'est un moment où je suis moi assez créatif, où j'écris, où je pense, je peux développer des idées. Et je te suis totalement là-dessus.
Voilà, moi, écoute, j'aime bien lire, mais je pourrais avoir le temps, mais je prends jamais le temps. Parce que je trouve toujours autre chose à faire. Et donc l'avion, effectivement, tu vois, c'est aussi ces moments-là où tu dis j'aime ce côté des connexions obligatoires.
D'accord.
Voilà. Et puis je crois que c'est vraiment c'est l'organisation, c'est un peu cross outil.
D'accord.
Après des outils, il faudrait que je regarde mon téléphone. Non, Messenger, j'adore Messenger. Ouais. Très sincèrement. Alors ce qui est amusant, c'est qu'aux États-Unis, on utilise beaucoup plus Messenger que
Facebook,
que WhatsApp.
Ah oui.
Et puis Slack. Oui. Encore que, alors je sais pas si c'est un truc de génération, mais Slack, j'aime beaucoup. Et en même temps, tu vois, justement, j'ai ce problème de classification. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent, qui disparaissent. Et c'est assez compliqué.
Et puis Slack, j'adore, on l'utilise, mais à la fois il y a ce côté interruption. Je suis pas du tout réactif sur Slack parce que
ça c'est un point. C'est aussi c'est bien que tu dises ça parce que c'est par moment, un peu comme on est en train de faire là, mais tu vois, ça rejoint aussi l'histoire de l'avion. C'est par moment se dire, là, je fais quelque chose et je le fais. Et si ça me prend une heure, je, je peux fermer les écoutilles un petit peu. Et donc ça, je pense que c'est aussi très très important. Et ce cette perte d'attention et ce dérangement permanent, tu vois, cette sollicitation permanente. Moi, j'ai pas de j'ai quasiment pas de notifications sur mon téléphone. Les notifications que j'ai, c'est comme tu as pu l'entendre, le téléphone qui sonne, les SMS. Et mais j'ai pas de notification. Enfin voilà, c'est les choses importantes pour moi. La notification, c'est est-ce que mon gamin est en train de m'appeler, est-ce que le bureau est en train de m'appeler, est-ce qu'il y a une vraie urgence. Je n'ai pas de notification email, je n'ai pas de notification Twitter, j'ai pas de notification Facebook. Oui, je vais consulter Instagram, Facebook, etc. Mais à des moments où je décide de le faire. Je veux pas être poussée. Pour moi, les notifications, ça doit rester quelque chose de d'important. Si tu reçois une notification, elle doit être dans le domaine de l'important.
C'est pour t'annoncer que...
C'est que t'as besoin de réagir dans la demi-heure, dans l'heure, enfin peu importe, mais voilà.
Où est-ce qu'on te suit justement alors sur, c'est quoi tes réseaux privilégiés, les Twitter, LinkedIn?
Oui, Twitter. LinkedIn, je produis pas de contenu. Enfin, je suis pas quelqu'un qui produit du contenu, donc j'aime bien poster des photos, surtout quand je suis à Paris.
Twitter, Instagram.
Twitter, Instagram et puis Facebook, bien sûr. Mais Instagram, je dirais, et Twitter. Twitter, je continue à l'utiliser. J'aime bien. C'est vrai que bon, après, ils ont des phases. Ils ont l'air de reprendre du poil de la bête. Donc.
En ce moment, ouais, je suis passé très LinkedIn aussi, mais.
J'ai la chance d'avoir @Géraldine sur Twitter.
Donc, ça, c'est beau.
C'est cool. c'est juste, ça vient des racines du tout début.
Super. Bah écoute, j'ai passé un très bon moment. Je te remercie vraiment de m'avoir accordé.
Bah, merci à toi, Mathieu. Je suis ravie qu'on ait pu être, comme tu disais, que Camille nous ait mis en contact et d'avoir participé à ce podcast. Merci.
Et ben merci à toi. Je te souhaite donc un bon retour en Californie.
Merci.
Et puis on prolongera ça quand on pourra.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.